l'agence de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Bonjour Adèle.
Bonjour Solène.
Alors Adèle, bienvenue dans 40 nuances de Sista, qui est le premier podcast où l'host ne choisit pas ses invités.
J'adore.
Alors quand on nomme comme Sista une entrepreneur engagée, enthousiaste, drivée par l'impact et la quête de sens, avec qui en plus j'ai déjà eu l'occasion de bosser, ben en fait c'est super, parce que je sais qu'on va passer un bon moment.
C'est trop la fête, je suis hyper contente d'être là.
Donc Adèle, tu es la cofondatrice de Ticket for Change et je rappelle pour ceux qui l'auraient raté que tu avais été choisie comme Sista par Mathieu Becher, le fondateur de Klaxoon, dans son épisode 40 nuances de Next en octobre dernier. Et à l'époque, Sista, c'était qu'une petite capsule de quelques minutes en fin d'épisode. Et aujourd'hui, bah, on va prendre le temps de te connaître un peu plus. À l'époque, tu avais eu une question surprise de Mathieu et là, en bonus, j'aurais deux questions surprises pour toi.
J'ai peur.
Mais avant, passage obligé pour tout entrepreneur, le pitch.
Pitch oh mon pitch. Pitch oh mon pitch.
Adèle, si tu devais nous pitcher, du coup, Ticket for Change, tu nous dirais quoi ?
Eh bien, je vous dirais que Ticket for Change, c'est à la fois une école et un mouvement. Donc, c'est une école parce qu'on design et on anime des formations à la fois pour des graines d'entrepreneurs, des gens qui veulent monter des projets à impact, mais aussi pour des gens en reconversion professionnelle qui veulent transférer leurs compétences dans des projets à impact. Et enfin, pour des salariés et des grandes boîtes pour les accompagner à changer les choses de l'intérieur. Et c'est aussi un mouvement parce qu'on a tout un pan de notre activité qui est vraiment sur la sensibilisation, le fait de changer les cultures, les mentalités et de faire en sorte que ces sujets, et c'est la preuve avec ce podcast aujourd'hui, que ces sujets prennent de plus en plus de place dans les médias et dans notre culture pour que les mentalités changent et pour que ça s'infiltre de manière douce et enthousiasmante dans les esprits de chacun en France.
Et de manière durable aussi.
Et durable, tout à fait.
Alors, je crois que vous vous êtes lancé en 2014.
Oui.
En 2014, vous sortiez tout juste de l'école, non ?
Complètement.
On a eu des invités sur 40 nuances de Next, notamment les cofondateurs de United Credit, qui ont dit « l'avantage de monter une boîte avant 30 ans, c'est d'être un peu couillon ». Sous-entendu, on a beaucoup d'insouciance.
Sous-entendu, nul.
pas forcément, mais ils montraient qu'on avait beaucoup d'audace, en fait.
Tout à fait, dans notre naïveté.
C'est ce qui s'est passé pour vous ? Parce que comment on se lance dans une école d'entrepreneurs quand on n'a pas forcément été entrepreneur soi-même ?
Ouais, c'est une super question et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce qu'en effet, Ticket for Change, au tout départ, donc en 2014, ce qu'on a monté, c'était un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça peut paraître complètement paradoxal de monter un programme d'entrepreneuriat quand tu n'es toi-même pas encore entrepreneur puisque tu es en cours de devenir sur le chemin pour devenir entrepreneur. Et en fait, on a eu deux réponses à ça. La première, c'est justement qu'on était les mieux placés parce qu'en fait, on était en train de créer le programme idéal pour nous. Donc en fait, au fur et à mesure de la création de Ticket, on voyait ce qui nous manquait, on voyait ce dont on aurait eu envie, les types de conseils, les types de masterclass, etc. etc. Et donc, on designait le produit idéal pour nous. Et ça faisait de nous donc les meilleures personnes pour le faire. Et la deuxième réponse, ça a été de s'entourer de gens bien plus experts, bien plus forts, bien plus expérimentés que nous. Et d'aller chercher ses talents, d'aller chercher ses compétences. Et justement, quand on est jeune, un peu fou, naïf et pétri de l'ambition de sauver le monde, en fait, on s'est rendu compte que quand on osait demander, tout le monde nous disait oui. Et ça, c'était assez magique parce qu'on s'est retrouvé entouré de gens absolument incroyable, que ce soit d'un point de vue visible par des Thierry Marx, par Emmanuel Faber, la ministre de l'Éducation à l'époque, c'était Najat Vallaud-Belkacem, enfin des gens comme ça qui nous ont soutenus publiquement, et puis par tout un tas de mentors, évidemment, dans l'ombre, qui nous ont permis de faire que ce projet est ce qu'il est aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on lance la première édition de ce programme, justement ?
Beaucoup de fatigue, en premier lieu. Non, évidemment, énormément de fierté. Enfin, c'est vrai que j'ai la chance d'être encore avec mes cofondateurs de l'époque, ce qui est rare et ce qui est un bonheur de chaque jour. Et on se rappelle souvent de cette première édition qui était, évidemment, la moitié des choses n'étaient pas prêtes, on était en stress pas possible et c'était complètement démesuré, bah, même si on y est arrivé. Mais c'est vrai qu'on se redit ce qu'on a fait à l'époque, c'était absurde. Et en fait, on était juste tellement fiers, mais pas fiers de « Ah, on a fait un programme, on est trop fort », fiers de l'impact qu'on voyait. En fait, c'est ça qui était le plus fou. C'est que le tout premier programme Ticket, c'était 12 jours en bus à travers la France, où on allait dans 6 villes de France rencontrer des entrepreneurs, des mentors, etc. Et on accompagnait 50 graines d'acteurs de changement. Et quand tu finis ça et que les 50 personnes sont en larmes en disant « c'est la plus belle expérience de notre vie et ça a transformé notre vie à tout jamais », bon, bah là, tu te dis « ok, j'ai fait un petit truc qui va pouvoir faire changer les choses dans le bon sens. » Et c'est un bonheur absolu. Et après, on dort.
Et alors, 2014, l'entrepreneuriat social, c'était un mot un peu ovni, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus courant, voire limite galvaudé. Mm. Comment on fait en 2014 quand on parle d'entrepreneuriat social?
Ouais, c'était compliqué. Même nous, on l'avait découvert peu de temps auparavant, finalement. Enfin, moi, j'ai découvert ce mot à l'ESSEC, puisque j'ai suivi une formation d'entrepreneuriat social. Mais c'est là que je l'ai découvert, donc comme, je sais pas, 2 ans avant, quoi.
C'est les balbutiements.
C'était les balbutiements. C'était la toute première chaire en France à l'époque, alors qu'aujourd'hui, si tu t'es pas in, si t'es pas une école avec une formation, ce qui est très, très bien, sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup de paraphrases et en fait, ce qui marchait, c'était de parler vraiment de ce qu'on appelle dans le pitch entrepreneurial le why, le pourquoi on fait ça en fait.
Ouais.
Éviter justement d'aller dans de la théorie de c'est d'entrepreneur social, mais juste dire voilà, il y a plein de jeunes, parce qu'à l'époque c'était que pour les jeunes, aujourd'hui c'est ouvert, mais voilà, il y a plein de jeunes en France qui ont envie de faire des choses qui vont être utiles pour la société et ils savent pas comment commencer, et de l'autre côté il y a tellement d'entrepreneurs qui ont un impact positif en France et en fait il n'y a pas de rencontre entre ces deux mondes, et donc créons en fait les vocations et les opportunités de demain. Et en fait, quand tu parles du why, du pourquoi, et que t'en parles avec, comme tu disais, cette naïveté, cette ambition, bah en fait, ça marche. Et petit à petit, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de ce changement de culture et de mentalité, ça passe aussi par les mots, ça passe par le vocabulaire et par comment est-ce que t'arrives à rendre ces sujets-là, moi, j'utilise souvent le terme de sexy, parce qu'il faut en fait que ça devienne sexy et se dire, bah ok, est-ce qu'entrepreneur social, au fond, les gens, ça leur parle, ou est-ce qu'en fait, faudrait utiliser un autre mot, ne pas s'attacher outre mesure à utiliser tel mot. Et d'ailleurs, c'est encore en construction, tout ça, ce champ lexical, pour que justement les gens se retrouvent dans ces terminologies et se les approprient et réapproprient et les réinventent. Donc voilà, on est encore en cours, mais heureusement, en effet, je pense qu'aujourd'hui, je parle d'entrepreneuriat social, ça passe mieux en dîner mondain. Voilà.
Et puis, il y a aussi une image, parce que je t'ai entendu dire un jour, oui, entrepreneuriat social, au départ, les gens te voient comme quelqu'un qui a des dreadlocks, qui vit en retrait de la société, qui est contre toute la société. Ça a aussi vachement évolué.
Vachement, vachement. Et c'est vrai que moi, au début, quand je disais ce que je faisais, alors j'avais deux réactions. En effet, j'avais soit « Ah, elle sauve le monde », mais genre, parce que bon, il faut trouver un truc à dire et c'était le raccourci. Soit en effet, l'image, ah, t'es en Sarouel et de l'écolo, la caricature un peu de l'écolo militant, très associatif. Et en fait, c'est vrai que avec l'entrepreneuriat social, ce qu'on essaye de réconcilier, c'est le meilleur de deux mondes, justement dans cette démarche de rendre accessibles ces sujets. Parce que oui, c'est difficile de faire accepter aux gens des notions de radicales, comme de la décroissance, comme changer de vie radicalement, le côté associatif. Il y a plein de choses de ces choses-là et je le comprends qu'ils ne sont pas forcément accessibles pour les gens qui sont encore dans un système de pensée. On est dans un système de pensée et de fonctionnalité libérale, capitaliste, etc. Et voilà, l'entrepreneuriat social, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est essayer de réconcilier le meilleur des deux mondes, de se dire, bah, oui, il est possible d'avoir un modèle économique viable, mais la finalité première est un impact sociétal. Et du coup, tu essayes de réconcilier ça et de montrer aux gens, c'est presque dans la douceur que oui, c'est possible de transformer un peu notre manière de faire et de voir les choses et d'aller dans le bon sens, mais sans, et je pense que c'est important, sans trop brusquer les gens.
Et quand tu parles justement de modèle économique rentable, vous, votre business model chez Ticket ?
Alors nous, notre business, donc Ticket for Change, c'est une association et une SAS. Donc, on est une association, ce qu'on appelle Loi 1901. Et on a créé une SAS qui s'appelle Corporate for Change, qui appartient à 100% à l'association. Et notre business model, pour simplifier, il y a trois grands types de revenus. Le premier, c'est le mécénat. On est encore majoritairement dépendant, entre guillemets, du mécénat, de fondations d'entreprises et de subventions publiques.
Ouais.
Ça représente à peu près 60% de notre budget. Ensuite, on a une partie qui est l'aspect prestation auprès d'entreprises et notamment à travers Corporate for Change, du coup, qui fait des prestations.
Des programmes d'entrepreneurs.
Des programmes d'entrepreneurs et de l'accompagnement, vraiment des missions d'accompagnement aux entreprises pour... Mmh. changer leur modèle de l'intérieur. Et enfin, la contribution des bénéficiaires à nos programmes. On a, depuis 2014, depuis le départ, on a eu cette conviction qu'il fallait faire payer nos programmes parce que malheureusement, ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens. Mais grâce au mécénat, ça nous permet de faire des tarifs très bas, très accessibles, puisque notre but, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Mais voilà, il y a quand même une petite participation qui est souvent symbolique par rapport au prix que ça nous coûte, mais qui reste là et qui
est aussi une forme d'engagement finalement.
Tout à fait. Une forme d'engagement et de réalisation de tout le travail qui a été fourni. Et d'ailleurs, on pratique très souvent ce qu'on appelle le paiement en conscience de nos programmes, c'est-à-dire qu'on dit le prix que ça nous a coûté. Et on dit, donc pour vous donner un exemple, le parcours entrepreneur qui dure 6 mois, ça nous coûte environ 12 000 euros par participant. Et on leur dit, vous pouvez payer de 700 à 1 800 euros en fonction de vos revenus. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Mais en tout cas, nous, vous pouvez payer dans cet écart-là. Et donc, ceux qui ont très peu de revenus payent le minimum et le contraire. Donc voilà, ça nous permet de rendre les gens un peu responsables aussi dès ce moment-là du paiement de leur programme, de leur formation.
Et quand tu parlais du mécénat, c'est vrai que les sujets d'impact, de recherche, de sens, ça parle forcément aux entreprises. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, c'était peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement pour trouver ou engager des sponsors ou des mécènes sur ces sujets ?
Franchement, alors oui, évidemment, c'est... Je ne vais pas dire que c'est facile parce que surtout l'équipe chargée du mécénat aujourd'hui va m'étrangler. Mais non, c'est évidemment que c'est toujours un travail de longue haleine et c'est difficile. Mais après, voilà, je trouve que quand même depuis 2014, on a réussi à trouver des entreprises, des fondations d'entreprises qui nous ont écoutés, qui étaient disposées à vraiment à être en veille de ce nouveau mouvement, de cette évolution de la société. Nous, les premiers mécènes qu'on a réussi à convaincre, c'était très souvent les deux grandes raisons en fait qui faisaient qu'ils voulaient nous suivre, c'était à la fois pour l'engagement des collaborateurs. Ils sentaient que c'était en fait quelque chose qui était nécessaire pour que les collaborateurs se sentent engagés dans l'entreprise, d'aller vers ce type
et travailler
de projet,
leur marque employeur
et travailler leur marque employeur. Et de faire beaucoup, par exemple, de mentorat avec les salariés, etc. Et la deuxième raison, c'était vraiment d'être en veille de ce qui se fait, en fait, dans leur cœur de métier, dans leur secteur. Et aujourd'hui, voilà, par exemple, sur ce fameux parcours entrepreneur, on a des labs et des entreprises qui sont dans l'agriculture, dans l'alimentation, disons, et qui vont, du coup, soutenir les projets dans l'alimentation durable. Et donc, il va y avoir vraiment des passerelles. On essaye de créer des passerelles. Et il y a des super passerelles qui sont créées. On a, par exemple, deux entrepreneuses qui ont monté leur marque de croquettes pour chiens et chats à base d'insectes, donc écologiques. écologique. Et l'un de leurs premiers canaux de distribution, ça a été Carrefour, parce qu'on a la fondation Carrefour dans nos partenaires. Et donc voilà, on essaie de créer des passerelles.
Pour et des synergies.
Fait, des synergies, exactement, pour aussi du coup faire changer les mentalités en intérieur et à l'intérieur. Et ça passe par la sensibilisation des salariés et bien sûr le changement du cœur métier des entreprises.
Et donc, tu me parlais là des synergies, tu parlais aussi tout à l'heure de tous les gens qui étaient passés par le programme. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est 117 000 personnes.
Ouais, au total. C'est à la fois les programmes en présentiel et les programmes en ligne.
Ouais.
Puisqu'on a des programmes en ligne comme un MOOC, donc un cours en ligne qu'on a fait avec HEC.
Ouais.
Et voilà, qui chaque année, il y a 15 000 nouveaux apprenants un peu partout dans le monde. C'est assez fou d'ailleurs de voir des gens partout dans le monde qui le suivent. Et voilà, donc au total, oui, c'est ça.
Et c'est vos meilleurs ambassadeurs, j'imagine ?
C'est un peu tous hein, nos meilleurs ambassadeurs. C'est vrai que nous, on est toujours... je parle à titre personnel, je suis émerveillée à chaque fois que j'apprends des nouvelles belles histoires dont on n'est même pas conscient. Voilà, des gens qui ont fait le MOOC, des gens qui ont fait un parcours qu'on a perdu de vue et puis qui d'un coup nous réécrivent en disant j'ai monté ce projet grâce à vous. Je me rappellerai toujours quand on avait reçu ce mail d'une jeune femme qui avait monté un projet en Haïti et qui était toute seule là-bas. Elle faisait de l'humanitaire et en fait elle voulait plus faire d'humanitaire. Elle voulait créer une solution plus durable, en fait, aux problématiques locales. Et c'est son père qui lui avait parlé du MOOC, qui lui avait envoyé le lien. Donc, elle s'était mise à suivre le MOOC. Et en fait, elle avait vraiment... Mais comme elle était seule là-bas, en fait, elle avait tout suivi. Et à un moment, on leur demande de faire un canevas, un peu de deck, tu vois, de ouais. Pitch deck. C'était avec ça qu'elle était allée convaincre les partenaires parce qu'elle faisait des savons recyclés. Et donc, elle faisait ça avec des femmes qu'elle ramenait à l'emploi, qui allaient recycler les savons des hôtels, etc. Et voilà, et elle avait monté son projet évidemment grâce à elle, mais en partie grâce au MOOC. Et c'est trop beau d'entendre ces histoires. Ouais.
J'imagine que vous en avez plein.
On en a plein.
Comment s'inscrit aujourd'hui Ticket dans le paysage de l'entrepreneuriat social en France ?
Vaste question. C'est une très bonne question et c'est une question qui est totalement d'actualité avec nos réflexions actuelles, puisque pour faire très simple, pendant des années, en fait, on était en mode tête dans le guidon de Ticket. Tu montes Ticket, donc comment on va faire pour que Ticket fonctionne ? Comment on va faire pour ramener des sous pour Ticket ? Comment on va faire Ticket pour augmenter l'impact, etc. Et depuis quelques années, on est vraiment dans un changement de mentalité et qui est assez global dans l'écosystème, de plus penser seulement en notre chapelle Ticket, mais de penser écosystème. Et en fait, de réaliser que notre finalité, c'est pas que Ticket grandisse. Ticket, on s'en fout. Notre finalité, il faut se la rappeler tous les jours, c'est d'accompagner à la résolution de grands enjeux de société. Et en fait, ça, pour que ça fonctionne vraiment à grande échelle, et on a besoin de la grande échelle aujourd'hui, puisque on le sait bien, les enjeux sont de plus en plus urgents et importants, il y a besoin de s'organiser de manière écosystémique avec les autres acteurs et de sortir de juste sa focale personnelle. Et donc aujourd'hui, c'est un rôle qu'on essaye vraiment de tenir de tenir dans l'écosystème et de avec d'autres hein, évidemment on n'est pas du tout les seuls à apporter ce message et heureusement de faire de plus en plus partie de collectifs, de coalitions.
C'est des partenariats par exemple sur des événements, c'est des prises de
parole.
Je
me suis peut-être mal exprimée, c'est plus profond que ça. Ouais. C'est vraiment travailler en coalition avec des acteurs pour atteindre des changements systémiques et notamment du coup au niveau législatif.
D'accord.
Et donc avoir une véritable action de plaidoyer.
Oui.
Collectivement, parce que si nous, tout seuls, Ticket, on brandit un petit drapeau en disant « il faut changer ça, le gouvernement, s'il vous plaît », ça va moins bien marcher que si on est 400 boîtes à se réunir.
Et tu as des exemples de choses
bien
que
sûr, bien sûr. Donc, dans un premier temps, on a rejoint des collectifs existants et je peux donner l'exemple de Nous Sommes Demain, qui existe toujours, qui est un collectif notamment porté par le mouvement Impact France, qui est un peu une fédération, disons, nationale des entrepreneurs sociaux. qui organise énormément de choses et qui fédère le secteur pour arriver à des propositions extrêmement concrètes, notamment pour le plan de relance ou la loi climat,
ouais.
Pour arriver vraiment à contribuer de manière concrète à ces projets de loi. À titre plus personnel, entre guillemets, du côté de Ticket, on a monté comme un sous-collectif qui s'appelle le collectif des grandes écoles de la transition, où notre but, en fait, c'est de fédérer tous les acteurs de la formation à la transition, donc tous nos concurrents, en fait, de près ou de loin, avec ce constat que, en fait, il y a plus en plus de gens qui voudraient faire ce type de formation, mais ils ne savent pas où aller trouver les choses, ils ne savent pas quoi faire, etc. On va tous chercher du mécénat individuellement et donc on devient concurrent, justement, alors qu'encore une fois, on a la même finalité. Et donc, au lieu d'être concurrent pour aller chercher 10 000 par là, 20 000 par là, etc., allons de manière collective demander de l'argent au gouvernement, des montants conséquents qui seraient répartis de manière équitable entre les acteurs pour développer le secteur dans son ensemble et créer une meilleure fluidité aussi entre ces parcours, entre ces formations, etc. On a appelé ça Grandes Écoles de la Transition parce que depuis tout temps, il y a eu création de grandes écoles quand il y a eu des grands changements structurels dans nos sociétés, quand il a fallu créer des ponts et des routes, on a créé Ponts et Chaussées, quand il a fallu organiser la vie politique, on a créé Sciences Po, les écoles de commerce. Plus récemment, il y a eu les grandes écoles du numérique. Et là, on fait pareil, sauf que nous, on ne fait pas comme les Sciences Po, les écoles de commerce, on ne va pas créer des bâtiments et mettre des élèves dedans, on va fédérer toutes ces organisations, toutes ces formations qui existent partout en France. Et essayer de
leur donner les moyens.
Exactement, de leur donner les moyens. Donc, ça peut paraître complètement paradoxal parce qu'on veut donner les moyens à nos concurrents. Mais en fait, il faut faire, encore une fois, bouger le marché de manière globale. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est notre rôle, vu qu'on est parmi ceux qui étaient là. Alors, il y en a qui sont depuis bien, bien avant nous. Hein, oui. Mais disons, dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs, on a été plutôt bien placés. Mmh. Voilà.
Et c'est aussi une nouvelle mentalité dans le monde associatif. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image de guerre de clochers entre différentes associations. Là, c'est quand même aussi une révolution, d'une certaine
Tout
manière, que de se fédérer pour...
Se fédérer, comprendre qu'on est plus fort ensemble et qu'en fait, ce travail de structuration et de fédération, le secteur classique le fait très bien.
Oui.
Et l'a déjà fait depuis de nombreuses années. Le MEDEF le fait très bien. Les lobbies, ils le font très, très bien. Donc en fait, il y a besoin de jouer sur au même niveau et avec les mêmes outils, pour ne pas employer armes, car nous ne sommes pas dans un combat, mais les mêmes outils, pour pouvoir nous aussi faire porter nos idées, nos voix et nos convictions pour que, et c'était le cas même si on a été très déçus pour ce plan de relance, de dire on ne peut pas faire un plan de relance comme en 40. Mmh. Bon, le problème c'est que même si on commence à être de mieux en mieux organisé, de l'autre côté ils sont là depuis
longtemps.
Et des dizaines d'années et voilà, ils sont copains avec tout le monde, donc c'est compliqué de faire avancer les choses. Mais voilà, au moins on
essaye
d'y arriver petit à petit.
Et vous vous inspirez de ce qui peut se passer dans d'autres pays en Europe ou voire même aux États-Unis ou ailleurs dans le monde d'ailleurs sur ces sujets-là? Il y a des choses qui sont inspirantes pour vous?
Alors, à ce niveau-là du plaidoyer, moi, honnêtement, je ne m'y connais pas assez.
Ouais.
Je sais que oui, notamment le mouvement Impact France dont je parlais, qui a vraiment ce rôle de méta-organisation s'inspire beaucoup de ce qui se passe ailleurs et notamment aussi des organisations comme Ashoka qui sont des organisations internationales donc qui peuvent s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Moi honnêtement à titre personnel je connais pas assez, mais t'as raison, il faudrait beaucoup plus apprendre de ce qui s'est fait et des grandes réussites qu'il y a pu avoir sur des changements de loi, des évolutions de société où on pourrait utiliser les mêmes outils.
Ouais.
Donc il y a plein de gens qui le font. Moi à titre personnel je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le font.
Ceci n'était pas une question piège.
Si, je sais, non, mais je le ferai dès ce soir, c'est promis.
Alors, on voit que sur tous ces sujets d'impact, les fonds d'investissement s'y mettent, les GAFA s'y mettent aussi. En fonds d'investissement, je pense notamment à fonds d'investissement 2050 de Marie Ekland et qui a rejoint notre ami Olivier Mathieu. Comment tu perçois justement ces sujets qui sont pris à bras-le-corps par aussi d'autres acteurs qu'on n'attendait pas forcément là?
Bah, je trouve ça à la fois très positif parce que on a besoin des mêmes outils, des mêmes moyens que des entreprises classiques pour pouvoir justement se développer, etc., et pouvoir concurrencer avec des entreprises qui auront d'autres valeurs et d'autres modes de fonctionnement. Donc d'un côté, c'est hyper positif et vraiment c'est fou le changement qu'il y a eu depuis 7 ans. Je mettrais simplement une nuance peut-être ou une inquiétude potentielle. En fait, je pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est de pas virer complètement, en fait, se dire on va faire exactement les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avant dans du capitalisme classique et le revers en juste saupoudrant de il y a de l'impact. Donc, en fait, c'est super, mais il faut changer les choses en profondeur, ne pas faire avec les mêmes critères, ne pas faire avec les mêmes modes de fonctionnement. Si je prends un exemple bête, hein, vraiment d'une simplicité, mais voilà, si par exemple on investit dans une entreprise sociale, on ne peut pas lui demander les mêmes seuils de rentabilité, on ne peut pas lui demander uniquement des indicateurs financiers, on ne peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis de ce type d'entreprise que des entreprises classiques. Et si on ne change pas en profondeur du coup les manières d'évaluer, les manières de...
Les KPI, les métriques...
Exactement. En fait, bah, les choses ne changeront pas, en fait. Ouais. Et du coup, on sera à nouveau dans une croissance éperdue avec des... OK, ça sera un peu mieux parce qu'il y aura des produits green. Mais en fait, le problème, ce n'est pas qu'il faut produire 500 millions de baskets green en plus. Il faut produire moins de baskets au global. Mm. Donc en fait, il y a un moment où si on ne repense pas en profondeur juste les notions de croissance dans nos sociétés, on arrive, quoi qu'il arrive, à un mur. Même si on a tous des baskets green aux pieds, on y marchera quand même dans ce mur. Donc du coup, c'est juste là-dessus où je trouve que c'est plein de signaux excellents et vraiment positifs. Et à la fois, il faut que les personnes qui soient dans ces structures, qui du coup virent de bord progressivement, déjà le fassent pour les bonnes raisons. Mmh. Et ça, bah, il faut aller leur demander une par une. Est-ce que ton intention est la bonne ou est-ce que tu te dis juste que c'est une tendance marché et que du coup, c'est juste un moyen de se faire plus de pognon et donc ça change pas la donne.
Oui.
Donc est-ce que les intentions sont les bonnes et est-ce que ils sont prêts à transformer vraiment leur manière de faire et leur manière de suivre et d'évaluer ces projets. S'ils sont prêts à tout ça, moi je dis go. J'adore, mais voilà, je pense que s'il y a pas ces changements structurels, ça changera malheureusement pas grand-chose à part d'avoir 2-3 licornes green d'ici là. Mais est-ce que vraiment on a besoin de licorne green?
Peut-être pas une fin en soi.
Voilà.
Ça fait partie des missions, des prochaines missions de Ticket, ces sujets-là, justement?
Pour l'instant, on n'est pas, nous, sur des sujets de fonds d'investissement. Il y en a plein qui s'y mettent et qui le font beaucoup mieux que nous. Donc, on va les laisser faire pour l'instant. Et puis, on a aussi, c'était une des complément à ta question de tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à pas essayer de tout faire, à faire bien ce qu'on sait faire. Nous, il se trouve que ce qu'on sait très bien faire, c'est designer et animer des formations et aider des gens à faire à notre place ces formations. Et donc, nous, on va se concentrer sur ce cœur de métier-là. Et voilà, et on préfère s'associer avec, du coup, des fonds d'investissement, des fonds de dotation qui, eux, vont faire ces choses-là très bien. Évidemment qu'on dit qu'on est très proche de fonds de dotation comme Entreprendre et Plus. On parle beaucoup avec Make Sense qui a lancé son fonds. Enfin, voilà, ouais. C'est super. Mais voilà, nous, on va se concentrer sur là
notre
où on est
métier.
Bon. Exactement.
Alors, c'est quoi les prochains enjeux de Ticket?
Alors, les prochains enjeux de Ticket, c'est justement de bien choisir notre modèle de changement d'échelle. Là, ouais. Aujourd'hui, on en est à un stade où on a vraiment... prouver qu'on savait faire ce qu'on fait. On a sorti, tu l'as sorti tout à l'heure, ce chiffre de 117 000, c'est parce qu'on vient de finir une mesure d'impact très poussé sur nos 5 dernières années, parce qu'on avait déjà sorti une mesure d'impact sur les premières années. Et donc voilà, on a vraiment pu acter grâce à des résultats extrêmement factuels et concrets que ça marchait, qu'on avait de l'impact et que nos pédagogies, nos méthodologies, notre manière de faire fonctionnaient. Donc maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on démultiplie ça, comment est-ce qu'on rend possible cela partout en France et dans le monde. Et donc, on est sur toute une réflexion qui est passionnante, qui se fait avec toute l'équipe sur vraiment choisir notre modèle de changement d'échelle et du coup pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Mais pour faire simple, l'idée, ça va vraiment être ça, de former des gens à faire à notre place. En fait, nous, notre but, c'est pas de grossir, c'est pas de créer, comme d'ailleurs le font certaines écoles, puisque c'était un modèle ancien, entre guillemets, mais de créer des campus Ticket partout dans le monde avec voilà, la marque Ticket, des bâtiments, que tout soit Ticket. Mais c'est plus comment est-ce qu'on va outiller des individus sur un modèle presque un peu comme de l'open source, où en fait on crée vraiment les kits et les formations pour des personnes qui pourraient transmettre ça, soit parce qu'elles sont, c'est des individus, soit des organisations qui connaissent beaucoup mieux le terrain, qui connaissent beaucoup mieux les personnes qui sont autour d'elles et qui pourront voilà, transmettre ces formations et faire en sorte que ça soit diffusé au plus grand nombre. Donc voilà, là c'est vraiment notre plus gros enjeu aujourd'hui. Évidemment, c'est d'arriver à ce changement d'échelle et de faire en sorte que n'importe quel individu en France ou dans le monde qui a envie de mettre plus d'impact sociétal dans son travail et qui ne sait absolument pas par où commencer, puisse se dire bah, « Ok, tac, je sais que j'ai telle et telle formation labellisée, entre guillemets, Ticket for Change, donc avec un gage de qualité, mais qui n'est pas forcément délivré par quelqu'un qui est salarié Ticket for Change. Et voilà, et qui va pouvoir le faire et où ça, on va pouvoir l'aider. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra aller assez vite, parce que s'il faut attendre de construire des bâtiments, certifier tout et faire et recruter 150 personnes ou 1000 personnes, ça sera plus long. Et donc il y a besoin de cette agilité pour aller vite, encore une fois, face à l'urgence des enjeux.
Et dans 5 ou 10 ans, il y aura toujours les 4 cofondateurs?
C'est une excellente question. Bah, j'espère. Je pense que ce qu'on a merveilleusement bien réussi à faire depuis 7 ans, et on en est très heureux, c'est de se réinventer, de nous laisser la possibilité de réinventer nos postes et donc d'évoluer. Là encore, hyper récemment, on a en fait un des fondateurs qui avait fondé Corporate for Change, donc la branche corporate.
Ouais.
Et donc, bah, depuis le début, voilà, il fait des prestations dans les entreprises. Il a développé une expertise de fou là-dedans, etc. Et il y a un an, il nous dit, en fait, je ne veux plus faire ça. Et donc là, bah, tu as deux choix. Tu as soit, mon Dieu, c'est catastrophe, on ne peut pas. Et en fait, on a totalement repensé son rôle. On l'a laissé expérimenter, explorer tout ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, il travaille du côté dans l'asso, dans la partie asso, sur ce qu'on appelle... je ne vais pas révéler ce que c'est encore. Mais bref, sur un projet
scoop.
Numérique. Pas de scoop pour ce podcast. Mais voilà, sur un projet dans le digital, donc rien à voir. Mais c'est un mec voilà, qui a une capacité d'apprentissage de malade et qui est à nouveau dans une posture entrepreneuriale et passionné par ce qu'il fait, et voilà, et c'est un bonheur de le voir tous les jours. Et donc tant qu'on aura cette agilité et cette capacité à inventer, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Donc voilà, j'espère. On se donnera rendez-vous dans 10 ans.
J'espère.
J'adore.
Donc généralement, c'est toujours le moment où on danse du podcast.
Je confirme.
Ton tout premier dilemme à Ticket?
Mon tout premier dilemme, ça a été que, donc de manière très personnelle en fait, quand au tout début de Ticket, même avant de commencer Ticket, en fait moi je revenais d'un tour du monde et j'avais prévu de partir habiter dans un pays.
Lequel?
Au Chili. Parce que je voulais enfin être bilingue espagnole. Ça suffit de faire 10 ans d'études d'espagnol et de savoir que dire « Hola, ¿cómo estás ?». Donc bref, et puis voilà, l'Amérique latine m'avait passionnée pendant mon voyage. Et j'avais envie de cette expérience de vie là-bas. Et en fait, mon premier dilemme, il a été de choisir entre les deux, entre est-ce que je me lance dans cette aventure entrepreneuriale qui est à Paris, ou est-ce que je suis, en fait, ce que me dit mon cœur, enfin, mon cœur me disait un peu les deux. Mais en tout cas, voilà, j'avais ce plan et j'avais cette conviction que ça serait important dans mon développement en tant qu'être humain et pas seulement entrepreneur. Et en fait, je l'ai résolu en... Et c'est depuis une philosophie que j'adopte beaucoup et dont on parle beaucoup chez Ticket, on est dans la philosophie du « et » non pas du « ou ». Donc, essayer de ne pas choisir, mais de se dire de tout faire.
Du
c'est
coup...
parfois... Et donc, en fait, moi, ce que j'ai dit à l'époque à mon fondateur, en fait, j'ai dit bah, « moi, je suis là la première année, mais il va falloir que je parte faire ce truc. Il va falloir que je parte parce que sinon, je vais... Ticket, ça se trouve, je serai là dans 10 ans. Et si je n'ai pas fait ça, je le regretterai et j'aurai de la... rancœur entre guillemets contre Ticket en tant qu'entité parce que ça m'aura empêché. Et donc j'ai fait un an, je suis partie un an au Chili et je suis revenue. Et ça encore une fois, enfin voilà, je leur ai dit, hein, mais je les remercie tellement de m'avoir, voilà, ma place était au chaud, de jamais m'avoir fait sentir que je les avais abandonnés. Et ça démontre franchement d'une capacité, de une compassion, de compréhension. Enfin, voilà, je les aime.
Et cette année-là, tu regardais quand même, tu avais toujours bien quand même sûr, un œil sur Ticket.
Bien sûr, j'avais un œil, puis on s'appelait et j'avais un œil. Mais voilà, honnêtement, cette expérience au Chili a été incroyable pour moi. En plus, j'y ai développé des choses que j'ai... Eh ben, j'ai bossé dans des programmes d'entrepreneuriat.
Ok.
Et notamment de femmes. C'est drôle, en fait, j'avais deux métiers là-bas. J'en avais un où j'ai aidé à monter le réseau Entreprendre oui. au Chili, mm-hmm. qui n'existait pas à l'époque. Et j'ai organisé, à travers une structure qui s'appelle Exosphère, un programme d'entrepreneuriat uniquement destiné aux femmes. Et donc, en fait, ça m'a appris trop de trucs et ça m'a, en fait, vachement servi après pour Ticket. Ça m'a vachement nourri. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte et qui continue à... On se dit que souvent, il faut qu'on puisse aller se nourrir ailleurs, il faut qu'on puisse faire des breaks.
C'est aussi des méthodes de management, d'ailleurs, qui sont souvent promenées, de dire prenez le temps de vacances, prenez le temps d'aller s'inspirer ailleurs.
Et au-delà de vacances, ouais, de prendre des vrais... Moi encore, avant Covid, là, en 2019, je suis partie 4 mois faire une formation autour de pratiques somatiques, autour de la danse, de l'art, et bon, bref, des choses qui ne sont pas directement, on pourrait penser directement lié à Ticket, et pourtant ça me nourrit énormément au quotidien, et je suis en train de ramener pas mal de ça dans nos pédagogies. Enfin bref, du coup c'est vraiment cette agilité que je trouve merveilleuse, et je les en remercie encore tous les jours. Mais voilà, c'est un dilemme qui s'est bien terminé puisque fait le parti pris du et non pas du ou. Donc, si vous avez un dilemme, ne choisissez pas, faites les deux.
C'était le conseil d'Adèle.
Voilà.
D'ailleurs, en parlant de conseil, Adèle, lequel on t'a donné et que t'as pas suivi ?
Je dirais que c'est les conseils qu'on me donnait en école de commerce, en fait, où on me disait « va gagner beaucoup d'argent », où on me disait « faut que t'aies un métier à statut prestigieux, que t'aies de la sécurité ». Enfin voilà, il y avait vraiment ce modèle-là, mm-hmm. à part avec ma classe de fous furieux là, qui faisait de l'entrepreneuriat social. Mais sinon, c'était quand même les messages... qui était passé.
Et t'as l'impression que ça a changé, ça, aujourd'hui ?
Ouais, j'ai vraiment l'impression. J'ai vraiment l'impression, et c'est une très bonne chose. Mais à l'époque, ça restait le modèle dominant. Mmh. Et voilà, et c'était quand même très bizarre de faire ce que je faisais. Alors, j'ai eu la chance que mes parents l'acceptent et me soutiennent toujours. Mais voilà, je pense que c'est un peu ce truc de il faut suivre, il faut continuer la voie de l'excellence. En fait, jusqu'à présent, j'étais dans ce qu'on appelle une voie d'excellence, entre gros guillemets. Et d'un coup, de dire, bah, en fait, je vais arrêter de suivre l'autoroute. Je suis ravie de ne pas avoir suivi ce conseil et d'avoir commencé en entrepreneuse fauchée à vivre chez mes parents pendant quelques années de plus. C'est la meilleure décision que j'ai prise.
Du coup, ce serait le meilleur conseil que tu pourrais donner, de ne pas prendre l'autoroute, mais les chemins de traverse.
Ah, ça serait clairement un très bon conseil. Ouais, parce que... Et puis vraiment, je trouve que... En fait, aujourd'hui, on a besoin de vraiment revenir à nos unicités en tant qu'individu. Enfin, et tout ça, c'est très lié parce que voilà, Ticket, on a créé ça pour ça aussi, pour revenir à révéler l'unicité chez chacun. Et malheureusement, depuis que l'école existe, en fait, l'école a été créée plutôt pour uniformiser et ça avait de l'utilité à l'époque. C'était, voilà, c'était dans cette époque d'ère industrielle où il fallait des ouvriers, des gens qui fassent les choses sans trop se poser de questions et sans développer leur esprit critique et leur unicité. Donc, ok, ça avait du sens à l'époque. Je dis pas que c'était bien, hein, mais en tout cas, ça avait du sens. Et il se trouve qu'on a, voilà, ça change, hein, heureusement, depuis quelques années, mais ça met du temps à changer ces modes de formation, d'éducation, etc. Et aujourd'hui, on a que besoin de gens assez foufou, comme dirait une femme que j'aime beaucoup, Tanen Guillem, de crapaud fou, ces crapauds qui ne suivent pas en fait le reste des crapauds et qui trouvent, qui traversent l'autoroute et qui trouvent les chemins qui passent en dessous et qui du coup sauvent tous les autres crapauds parce qu'ils osent aller trouver des chemins de traverse. Ça a été théorisé. Hein. Mais voilà,
la théorie
c'est
du crapaud fou.
La théorie du crapaud fou, tout à fait. Et voilà, et c'est ces personnes qui sont prêtes à regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, et à stopper la roue parce qu'on est tous dans une roue comme les petites belettes là, dans les cages où on est dans notre roue, ça va très vite. Voilà, on est chacun sur nos voies. Et il y a un moment, il faut prendre le temps de s'arrêter, il faut prendre le temps de se dire bah, est-ce que je suis à ma bonne place, est-ce que vraiment là, ce que je vais faire ou ce que je suis en train de faire, un, ça m'épanouit et deux, c'est utile pour la société. Et s'il y a ne serait-ce qu'une des deux questions qui est non, bah, peut-être se dire est-ce que j'ai pas des choses qui sont dans mon champ d'action, des choses que je peux faire à mon échelle qui pourraient me permettre de changer ça. Je pense que ça ne peut que faire des gens plus heureux. Et ça, je pense que je ne trouverai pas une seule personne qui ne veut pas être... Enfin, si, il y a toujours des... Mais voilà, qui n'a quand même pas cette envie d'être heureux. Et encore une fois, ça serait plutôt cool pour la société. Donc voilà, soyez tous des crapauds fous. Je n'ai que ça à dire.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
À quoi tu rêvais, petite Adèle ?
Alors, moi, j'avais une très claire idée du métier que je voulais faire, petite. Ah. C'était être sauveuse d'éléphants dans une réserve d'Afrique. Et donc, avoir créé une réserve pour éléphants et où ils puissent vivre en tranquillité et survivre, surtout. Donc voilà, j'étais un peu une geek des éléphants. Je ne sais pas si ça existe. Mais j'avais absolument tout.
Tu avais fait un voyage
Je n'avais jamais fait de voyage. Je ne sais pas d'où me vient
Babar,
cette... oui, comme tout le monde, je disais Babar, mais je ne sais pas. J'ai été prise d'une passion pour les éléphants. J'avais tout. J'avais du t-shirt au porte-monnaie, où j'avais une collection de figurines éléphants, j'avais une carte du Kenya dans ma chambre et j'avais un petit porte-monnaie, évidemment en forme d'éléphant, cela va de soi, dans lequel j'économisais chaque mois mon argent de poche pour partir au Kenya, pour pouvoir avoir les éléphants. Bon, je suis arrivée à 350 francs hein, à l'époque, donc je n'ose même pas regarder combien coûtait le billet pour le Kenya, mais je pense que j'étais très loin. Mais voilà, c'était vraiment un...
C'est l'animal de la sagesse, non, l'éléphant?
Mais bien sûr,
en plus,
je pense que c'est
évident. Il y avait
quelque
chose de
c'est
lié.
Évident. Non, ouais, je trouvais ça fascinant. Et puis, je pense, évidemment, c'est facile d'analyser après coup. Mais enfin, oui, ça fait partie de ces animaux qui sont extrêmement symboliques de la raréfication, enfin de l'extinction, de la sixième extinction de masse, puisque on en parle beaucoup. Ça fait partie de ces grands mammifères qu'on a la chance de parler d'eux, parce qu'il y a tous ceux dont on ne parle pas, parce qu'ils sont un peu moins beaux ou un peu moins grands. Mais on en parle et voilà, je pense que c'est peut-être de là d'où vient ma fibre de vouloir sauver le monde. À la base, c'était des éléphants. Bon, maintenant, c'est plutôt... Enfin, j'espère qu'à travers ce que je fais, j'aide les éléphants d'une manière très indirecte. Mais voilà, c'était ça mon rêve.
Et est-ce qu'il y avait des jeux auxquels tu jouais qui étaient potentiellement révélateurs de ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors, je dirais que je jouais beaucoup à des jeux collectifs. Ouais. En fait, moi, j'étais un vrai garçon manqué. Mais genre... Vraiment. Genre, j'ai découvert que j'étais une fille vers 14-15 ans, tu vois. Genre. Et donc, je jouais beaucoup à tous les jeux dits et là je remets des énormes guillemets, de garçon. Mm-hmm. Mais voilà, je jouais au foot, je jouais au basket, je jouais au tennis, enfin tout ce qui était balle. Tout ce qui est équipe. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup joué à des jeux collectifs. Et ça, je pense que ça m'a vraiment définie. Parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin. Et d'ailleurs, la preuve, avec on était 4 cofondateurs. Et voilà, et je suis incapable de faire un truc seule. Je me sens vraiment, mais ouais, je me sens pas énergisée déjà. Je me sens pas à ma place. Quand je suis seule, je suis ma pire juge. Donc, je m'empêche de faire quoi que ce soit parce que je me dis, mais t'es nul, tu vas jamais y arriver. Et dès qu'il y a des gens, je me sens portée par un esprit d'équipe. Et donc, je pense que c'est toutes ces années à faire du foot qui indirectement m'ont aidé à ça et en fait que bah voilà aujourd'hui Ticket on le répète et ça peut paraître aussi galvaudé de dire ça mais c'est une vraie aventure collective et c'est pour ça qu'on tient toujours à dire on est cofondateur, je ne suis pas la fondatrice et voilà et c'est vraiment une aventure collective et c'est ça qui pour moi me procure le plus de joie au quotidien.
Et donc vous êtes 4 cofondateurs chez Ticket. Je crois que vous êtes 4 enfants dans ta famille. Ouais.
Allongez-vous sur un divan et dites-moi ce que cela signifie pour vous.
Ouais. Et ça représente quoi la famille pour toi ?
Oula, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment le pilier fondamental de ma vie. Je suis la personne, une des personnes les plus privilégiées au monde pour ça, puisque je suis née dans une famille très aimante, très soudée. Et nous, on est les 2 petites dernières avec ma sœur jumelle. Ouais. Donc, on est numéro 3 et 4. Et on a un grand frère et une grande sœur qui ont 7 et 9 ans de plus. Donc, qui se sont beaucoup occupés de nous, qui étaient assez grands pour s'occuper de nous. D'où le garçon manqué. Je suis devenue le petit frère de mon frère, clairement. Il a fallu choisir une.
Une,
voilà.
Bah, donc, au moins comme ça, il en avait au moins une.
Il a dû faire un test. Celle qui tape le mieux dans un ballon à 2 ans, c'était moi, voilà. Et voilà, on s'entend extrêmement bien avec mes parents et voilà, on se voit encore tout le temps. Ils sont tous à Paris et c'est à la fois... Ouais, j'ai l'impression que c'est comme mon camp de base. Souvent, j'ai cette image-là de... C'est grâce à ce camp de base que je peux gravir n'importe quel sommet dans ma vie parce qu'en fait, j'ai ce camp de base. Et du coup, quoi qu'il arrive, alors ça prend une dimension très pratico-pratique. Par exemple, je sais que si demain j'ai un problème financier, si je suis sans un sou, mais enfin voilà, je à vie je peux rester chez mes parents, chez mes frères et sœurs. Enfin, je sais que c'est possible. Je ne vais pas leur imposer ça, je vous rassure. Mais je sais que c'est possible. Donc rien de ce côté-là, tu vois, très pratique, c'est ça. Et après, c'est un camp de base de réénergisation. Ce terme que je viens d'inventer, inouï, et c'est une source, une zone d'apprentissage et de joie et de enfin voilà, donc on se voit beaucoup trop pour nos conjoints respectifs. Il paraît que parfois c'est un peu too much, mais voilà, on fait partie de ces familles qui chaque année continuent à partir 2 semaines tous ensemble avec parents, petits-enfants. Donc maintenant on est 14 avec les...
Ah ouais, ça fait une tribu,
c'est les
une
enfants,
tribu.
C'est carrément une tribu, mais et j'ai plein d'amis qui ne comprennent pas, qui disent, mais moi je ne pars plus avec mes parents depuis, ou alors 2 jours, tu vois, grand max. Et nous, on est là, mais si ça pouvait durer 1 mois, on le ferait. Enfin, donc voilà,
c'est une vraie source d'énergie.
C'est une vraie source d'énergie, ouais.
Vous avez un message.
Coucou ma sœur chérie. Alors moi, j'avais une question. Je voulais savoir si tu pouvais m'aider à prendre une grande décision. Parce que je sais que voilà, tu excelles vraiment dans ce genre de moments de vie, de croiser des chemins. Est-ce que je vais plutôt à droite, plutôt à gauche ? Donc, je vais vraiment avoir besoin de toi pour faire un choix. Et voilà, j'aimerais savoir quand est-ce que tu peux te rendre disponible pour approfondir, débattre, voilà, creuser vraiment ce sujet et m'aider à prendre la meilleure des décisions. Je sais que t'es la meilleure dans ce genre de... Allez, je t'embrasse. Bisous.
À la coquine.
Donc, c'est ta sœur.
C'est ma grande sœur. Oh, je suis émue, dis donc. C'est trop chouette. Oui, c'est ma grande sœur Clémentine, qui est elle-même entrepreneuse, puisqu'elle a créé ce merveilleux média qui s'appelle Bliss Stories, qui accompagne les femmes vers une maternité plus décomplexée et plus transparente et sans tabou.
C'est même la reine du podcast.
C'est un peu... ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est un peu... Ouais, c'est assez fou. C'est, voilà, c'est un podcast, un programme d'accompagnement. C'est plein de choses maintenant. Bliss, c'est... Et c'est une grande source d'inspiration aussi pour moi au quotidien. Et elle me fait rire avec cette question parce que, en fait, évidemment, je suis la pire personne pour prendre des décisions. Et c'est une source de moquerie depuis que j'existe. Puisque, voilà, à chaque fois, s'il faut choisir entre bleu ou vert, je peux y passer des heures. Et d'ailleurs, d'où
tu
le
choisis
dilemme.
Bleu et vert.
Je choisis bleu. Exactement.
Donc, t'as tout en double.
C'est exactement ça. Alors, après, je suis bien meilleure pour aider à prendre des décisions pour les autres. Ça, pour le coup, je... Mais alors, pour moi, c'est vrai que ça peut devenir abyssal et absolument ridicule, parfois. Parce que franchement, quand tu passes une demi-heure devant une carte pour savoir ce que tu vas manger... Donc moi ce que je préfère, par exemple, c'est les menus dégustation. Tu vois, voilà.
Comme
choisis
ça,
pas.
Tu...
T'as un peu de tout. Voilà, c'est ma grande philosophie de vie. Les menus dégustation. J'aimerais que la vie soit un menu dégustation.
Si on t'invite au resto, on choisit pour toi.
Exact. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien. J'aime beaucoup les surprises. Mais si moi je dois choisir, je vais toujours m'en vouloir, tu vois, de ne pas avoir choisi le bon truc. Voilà. Donc, merci Clémentine de cette question. Tu savais que je serais extrêmement, extrêmement douée.
Alors, on a parlé de ton frère, on a parlé de Clémentine, de ta sœur jumelle, t'en parles aussi souvent. Et moi, je me demandais comment on se construisait dans la ressemblance, la complémentarité, la singularité. Et tu en as beaucoup parlé, notamment dans un TEDx que tu as fait, pour parler aussi des talents. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler ?
Ouais, bah c'est évidemment quelque chose qui m'a définie et continue à me définir au quotidien. Avec ses aspects absolument merveilleux et ses challenges, comme tout. Et c'est vrai que j'en parle dans mon TEDx parce que c'est vrai que quand on est comparé, en fait, ça peut créer un sentiment un peu de est-ce que je fais bien, pas bien, qu'est-ce qui est la norme, est-ce que je dois faire plus comme elle, plus... Et il se trouve que moi, j'ai suivi la norme la norme qui était acceptée par l'éducation nationale à l'époque, qui était d'être bonne en classe et de faire tout comme il fallait bien. Et c'est vrai que ma sœur avait un caractère beaucoup plus foufou, beaucoup plus créatif, à s'affranchir justement. C'était un crapaud fou, voilà. Et moi, j'étais le crapaud qui traverse l'autoroute, et elle, c'était le crapaud fou. Et sauf qu'il se trouve qu'à l'époque, on récompensait plus les crapauds comme moi que les crapauds fous. Et on ne reconnaissait que ce talent d'être le crapaud qui... je vais arrêter de dire crapaud. Qui suit l'autoroute. Et pareil, ça, c'est quelque chose, évidemment, sur le moment, j'en étais pas forcément hyper consciente, mais j'ai vraiment réalisé après coup que, en fait, on avait essayé de la mettre dans le même moule que moi. Alors que en fait, elle créait son propre moule et elle continue à le créer au quotidien. Et c'est vraiment ce qui m'a amené vers Ticket, c'est cette notion d'unicité, de talent unique, de se dire comment est-ce que tu vas aller chercher ce qui est unique chez cette personne, et donc ce qu'elle fait mieux que personne, et que tu vas l'aider à faire ça, mais pour avoir un impact positif pour la société. C'est aussi bête que ça, en fait.
Et prendre conscience de son talent.
Et prendre conscience de son talent, exactement. Et voilà, et c'est quelque chose, je pense qu'en étant jumelle, j'y ai été un peu plus confrontée que d'autres personnes, parce qu'on a on est éduqué pareil, on fait tout pareil. Bon, nous, il se trouve qu'on a, je dirais de la chance, c'est pas forcément de la chance, mais il se trouve qu'on est ce qu'on appelle fausses jumelles, ce qui n'est pas un joli terme d'ailleurs, mais donc on se ressemble, on n'est pas identiques. Et ça, je pense que c'est quand même plus facile de construire son identité personnelle quand on n'est pas identique. Je ne sais pas ce que ça aurait été si on avait été en plus des jumelles vraiment comme on dit, monozygote. Mais voilà, c'est elle aussi une source d'inspiration au quotidien. Et notamment pour ces questions, voilà, elle attend son deuxième enfant aussi. Et moi, enfin, j'ai pas encore d'enfant, donc c'est génial de voir voilà, les zones d'apprentissage qu'on peut s'apporter l'une et l'autre. Moi, j'ai appris à être... le jour où je serai mère, je sais que je pourrais l'être grâce à ma sœur, parce que son fils, je l'aime comme mon fils. Et donc, ça sera juste une douce continuité de cet amour. Ça sera chouette.
Il vous a jamais confondu, du coup, si vous ressemblez
pas? Non, alors parfois, mais il faut qu'il lève la tête. Une fois qu'il a levé la tête, quand même, il capte. Mais non, il sait qui on est quand même.
Et est-ce que vous en avez joué d'être jumelles?
On ne pouvait pas y jouer justement comme des vraies jumelles, ouais. à passer l'une pour l'autre, etc. Ça aurait été drôle. Je pense qu'on y a joué plus dans... Ça a vraiment été un outil pour nous de confiance en nous. Vraiment, parce qu'en fait, je m'en rappelle très bien, à l'école, en fait, on était... dans des classes différentes, ça, nos parents ont toujours... c'est une très bonne chose, si vous avez des jumeaux, de nous mettre dans des classes différentes.
C'est souvent des questions, d'ailleurs, qui se posent.
Ouais. Et nous, pas à la crèche, mais enfin voilà, dès la maternelle, on était dans...
Comme ça, vous aviez vos cercles d'amis.
Exactement, on avait nos cercles d'amis. Mais par contre, donc dans les classes, on était Adèle et Lucie. Mais dans la cour de récré, si on le voulait, on devenait les jumelles. Et en fait, on était reconnaissables parce qu'en fait, il y en a peu des jumelles, et puis parce qu'on s'entendait très bien, et du coup, on a toujours mis nos amis en lien. Et puis voilà, moi j'avais la meilleure collection de cartes de basket de la NBA de la cour, ma sœur avait la meilleure collection de cartes Space Girl de la cour. Donc tu vois, nous deux, on
vous fédériez finalement, toute la cour d'école.
Exactement, tu vois, on était et on avait du coup la meilleure collection de toute la cour. Donc voilà, on a toujours vu notre gémellité comme une force, et non pas justement comme certains disent, ça a été très difficile de m'affirmer, etc. Mais voilà, je pense qu'on avait ce bon équilibre d'utiliser notre gémellité comme quand on le voulait, quelque chose qui nous différenciait. Mais ça nous différenciait à deux, mais du coup aussi en tant qu'individu. Et c'est ça qui est trop beau et qui nous a construit aujourd'hui.
Et qui persiste aujourd'hui aussi.
Et qui persiste, tout à fait.
Alors, on a parlé de ta famille.
On arrête, t'es sûre? Parce que j'ai encore plein de choses à dire.
Ah bah vas-y, je t'écoute.
Si t'as encore quelques heures devant toi, je parlais de mes parents, je parlais de tous mes neveux, nièces.
Dont deux qui ont fait un super podcast.
Tout à fait, tout à fait.
Dans Philosophie. Voilà,
Philosophie. Les plus grands, ceux de Clémentine, justement, voilà. Les plus grands qui sont des
Pablo et
futures
Thelma,
stars du
qui
podcast.
Qui sont des futures stars du podcast. Et si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous encourage, ouais. Parce qu'on a bien rigolé.
Ah ouais, ils sont très drôles.
Du coup, est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont marqué ta vie et qui ont fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui?
C'est une excellente question. Je trouve que quand tu poses cette question, on peut se demander est-ce que c'est femme en tant qu'être humain ou femme avec un grand F de la femme. Et comme ce podcast s'appelle Sista, j'ai plutôt envie de prendre le côté femme avec un grand F. Et en fait, là, c'est marrant, mais là, du coup, la première personne qui me vient, mais bon, j'en ai déjà un peu parlé dans le sens de mes cofondateurs, mais j'ai pas parlé d'elle, de Joséphine, qui est ma cofondatrice, que j'ai rencontrée au moment de la création de Ticket for Change. On se connaissait pas avant.
Vous êtes rencontrés le jour de la signature des...
Limite. Non, on s'est rencontrés où... Moi, j'avais demandé à rencontrer, avant de dire oui pour rejoindre le projet, il y avait déjà trois personnes qui étaient sur le projet, et j'ai dit, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Non, on s'est rencontrés en vidant des bouteilles de vin, en refaisant le monde jusqu'à 3h du mat. Voilà, ce premier soir. Et c'est ce qui a scellé notre amitié à tout jamais. Je ne m'attendais pas à lui dire ça, mais c'est vraiment une femme qui m'a aidée. Et c'est drôle parce que du coup, on n'était que deux femmes. Donc je pense aussi ce truc de jumeaux. J'ai fait une projection. Mais c'est une personne, on est hyper complémentaires. Et c'est une femme qui m'a énormément appris. Plus qu'elle ne le sait certainement, par sa douceur, par justement sa manière d'entreprendre en pensant que tout est possible. Moi, j'ai plus un côté parfois à voir ce qui pourrait mal se passer. Et peut-être qu'il y a besoin de ça, hein, mais à plus anticiper, à me dire « Ah, mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» et tout. Et elle, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais aucun problème. Il n'y a jamais, y a jamais aucun problème qu'on ne peut dépasser. Et c'est une femme qui m'a vraiment construite et qui continue de me construire puisqu'elle est toujours là, même si elle est à Toronto là en ce moment. Mais elle est toujours chez Tiquette. Et voilà, c'est une femme qui m'a construite en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, en tant qu'amie et que j'aime beaucoup.
Et qui fait partie intégrante de ta vie. Du coup,
et qui fait complètement partie intégrante de ma vie, même si ce serait bien qu'elle rentre en France vite.
Le message est passé.
Voilà.
Vous avez un message.
Salut Solène, bonjour à tous. Alors ma chère Adèle, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie ? Merci.
Merci David.
Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ?
David Fouché, mesdames et messieurs. L'unique, l'incomparable. David, c'est une personne incroyable, récemment papa.
Oui.
Entrepreneur, sportif de haut niveau, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler pendant plus d'un an sur un projet qui s'appelle La Claque, qui est un collectif de personnes dont tu fais partie, Solène,
tout à fait.
Dont Thomas fait partie, de personnes qui ont envie de changer les choses et qui avaient un très beau projet en 2020 qui était celui d'organiser un événement majeur à Bercy de
12 000 personnes.
12 000 personnes. Un truc, ça allait être la folie. Et donc, c'était vraiment la meilleure année
oui,
pour
exactement.
Organiser un événement à Bercy. Hein, voilà. Donc, on a dû mettre ce projet d'événement en stand-by, mais en fait, le collectif a tellement pris qu'on continue de travailler ensemble, qu'on a créé un podcast grâce à vous, puisque c'est vous qui le portez, qui s'appelle Les Claqueurs.
Oui, que tu causes de temps en temps.
Que je cause de temps en temps, où on va interroger des personnes anonymes et des personnes plus connues sur les grandes décisions qui ont forgé leur parcours et où on les titille pour prendre des grandes décisions pour leur vie qui sont positives pour la planète. Donc, on essaie de créer une chaîne d'engagement positif à travers ce podcast.
Podcast qu'on peut suivre sur toutes les plateformes.
Bien sûr. D'ailleurs. Merci. Tu es trop fort.
Je fais la promo de tous les podcasts dans ce podcast.
C'est parfait. C'est parfait. Donc, tout à fait. Il y a déjà des super podcasts qui sont disponibles. Voilà. Et j'ai eu le bonheur de découvrir David à travers ce projet. C'est aussi un jumeau, d'ailleurs.
Ouais.
C'est très drôle, on s'est rendu compte de ça et on s'est dit, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est parce qu'on est jumeaux. Voilà, donc David Fouché, trop heureuse d'entendre sa voix si reconnaissable. Et ça ne m'étonne pas qu'il m'interroge sur mon énergie parce qu'à chaque fois, il me disait, mais c'est pas possible d'être aussi petite et d'avoir autant d'énergie. Donc, lui, il peut parler hein, parce que lui, il fait des marathons et des je sais pas quoi. Enfin, je n'aurais jamais.
Du coup, lui, c'est... il écoute le podcast en courant.
Tout à fait.
Voilà, donc je pense que David, tu dois être en train de nous écouter en courant.
Oh, il est sur un petit 62 km, je pense. Voilà. Bon, c'est un matin comme un autre. Hein, voilà. Il fait ça avec des poids aux pieds, tu sais.
Oui.
Hein. Et puis, ça, c'est la première partie de son entraînement quotidien. Mais voilà. Donc, oui, tout à fait. Respire et hydrate-toi, David. Et donc, pour répondre à ta question, comment je trouve mon énergie ou un truc comme ça? Bon, un truc sur la source de mon énergie.
On la coupera.
Allez. Alors, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans la vie? Je crois que ce qui me donne le plus d'énergie, c'est vraiment de voir des gens à leur bonne place. C'est okay, ça va peut-être paraître bateau comme ça, mais en fait, et surtout quand je peux, d'une manière ou d'une autre, y contribuer ou être juste témoin de ça ou juste dire que je partager à cette personne que je trouve qu'elle est à la bonne place et qu'elle fait quelque chose qui la rend heureuse et qui est bon pour elle, pour le monde. Ouais, je trouve que ça me donne une énergie dingue parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... Quand je vois ça, je me dis tout est possible parce que... Il suffit qu'on additionne toutes ces personnes et voilà, et on peut vraiment créer un point de bascule, on peut vraiment créer un changement à grande échelle. Il y a un théoricien qui a dit que, je crois que le chiffre c'est 17%, il faut que 17% de la population adopte une pratique ou essaye de faire changer les choses pour que, en fait, ça, c'est le point de bascule. C'est un super livre de Goldwell qui s'appelle Le Point de Bascule. Et donc, c'est, voilà, c'est comment est-ce qu'on va atteindre ces 17%, comment est-ce qu'on peut atteindre ce point de bascule. Il n'y a pas besoin de convaincre 100% des gens, il n'y a pas besoin que 100% des gens bougent. Mais si on atteint ces 17%, ça peut marcher. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en vois un, je me dis, j'ai un petit check, tu vois, dans ma tête. De,
1% de plus.
Un de plus. Et encore une fois, c'est pas seulement comme si je vendais un produit et que je me disais, un de plus qu'il y a ce nouveau t-shirt ou cette nouvelle basket. Ou... C'est un de plus qui a un truc en profondeur qui a évolué ou qui est en train d'évoluer. Et c'est trop beau.
Et du coup, tu dirais que c'est au contact des autres que tu te ressources ?
Ah ouais, moi, je suis pas du tout... C'est une catastrophe. Bah ouais, et puis encore une fois, hein, je pense que ça vient de... Enfin, quand on grandit à 4, et encore, je dis 4, mais on était, voilà, les cousins, les machins, les... Enfin, moi, si c'est pas le bordel partout et que t'as pas un apéro avec 14 personnes, je me sens fébrile. Donc, non, bien sûr, c'est les autres. Et il faut des gens qui ont l'opposé. Il faut, Mathieu, c'est l'opposé. Mathieu, c'est plus. Mathieu, mon cofondateur, il a plus un côté, et je dis ça de manière très positive, mais c'est lui qui le dit, ermite. Mmh. Voilà, où il développe ses trucs dans son coin et voilà. Et il a des idées brillantes là-dedans. Moi, seule devant ma feuille, je n'ai aucune idée. Voilà, il faut me mettre à jouer au foot avec, avec des gens qui sont en train de changer le monde et ça va très bien se passer.
Si tu avais 2 heures de plus par jour, tu ferais quoi ?
Je danserais.
Ouais, c'est important la danse pour toi ?
C'est très important, ça l'est devenu en fait, ouais. Ça l'était pas tellement, enfin en fait je dansais comme tout le monde en soirée.
Quand il y en avait encore ?
Quand, voilà, tout à fait, dans cette époque, cette belle époque. Mais ouais, j'étais une danseuse de soirée qui avait même besoin de 1 ou 2 mojitos pour pouvoir se lâcher. Et il se trouve que ça fait 3 ans que je fais tout un travail sur le corps et que je suis partie me former à des pratiques autour de la danse, du mouvement, de mieux connaître et comprendre son corps et de le laisser s'exprimer. Mmh. Et de me reconnecter à ma créativité à travers mon corps. Et j'ai complètement changé ma manière de me mouvoir, de bouger, de danser. Je n'ai plus besoin de mojito pour danser, pour sentir que ce que je fais, ça me fait du bien. J'ai plus besoin que ce soit beau. Et c'est des moments de bonheur intense, de juste bouger. Enfin, encore une fois, d'ailleurs, c'est ma grande sœur Clémentine qui m'a offert un poster avec marqué « Dance like no one is watching », donc mm-hmm. « Danse comme si personne ne te regardait ». Et c'est exactement ça que j'aime faire. Et donc, si j'avais 2 heures de plus, je ferais que ça.
Si on dansait, tu verrais demain comment ?
Oh là là, ça serait plus fun déjà, ça serait plus fun. Non, mais blague à part, si je me dirige vers ces sujets-là, c'est parce que je suis persuadée que ça, il y a un potentiel d'impact sociétal énorme, qu'en fait...
Prise de conscience de son corps aussi.
Exactement.
Qui dans notre culture n'est pas franchement
présent.
C'est une catastrophe.
Et c'est le grand oublié de tout. Alors, heureusement, on est un peu dans une phase de reconnexion à nos émotions, quand même. Ouais. Je trouve que c'est bien. Mais le corps reste encore le grand oublié de tout, de tous les programmes, même d'accompagnement, justement, à l'entrepreneuriat, ou même à changer de vie. Donc, on va te faire parler de tes émotions, de qu'est-ce qui va pas, mais on va pas te faire bouger, on va pas te faire incarner. On redescend pas dans le corps. Et en fait, notre corps, c'est notre premier canal de communication, d'expression. On le sait tous, on a tous des gens, on l'a vécu, ou on a des gens autour de nous qui ont exprimé des burn-out et des blocages ou des problèmes ou des machins par le corps. Le nombre de gens que j'entends qui font « Ah là là, je supporte pas mon boulot, vraiment, ça me donne des plaques. » Et en fait, la personne a de l'eczéma depuis... Tu sais, ces trucs-là de somatisation, ouais. En fait, il y en a tout le temps. Et d'ailleurs, les burn-out souvent se provoquent par des manifestations physiques, somatiques. Donc en fait, il y a un énorme enjeu de se reconnecter à notre corps. Et en fait, moi, ce dont je suis absolument convaincue, et il n'y a pas que moi, hein, je le prends de plein de personnes qui m'ont inspirée, c'est qu'en fait, si on se reconnecte au corps, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à notre environnement. Parce que notre corps, c'est ce qui nous ramène à notre animalité, c'est nos fluides, c'est le contact avec l'autre, c'est le toucher, c'est nos sens. Tout ça, ça nous ramène à ça, en fait. Si tu te ramènes à ton corps, d'un coup, tu perçois pas ton environnement de la même manière. Tu supportes plus d'être assise 8 heures par jour devant un ordi. T'as besoin de sortir, t'as besoin de lever le nez, t'as besoin de regarder les gens, de regarder la nature, etc. Et donc, de revenir là, ça va nous reconnecter aux autres, ça va nous reconnecter à la nature et ça va nous faire reprendre conscience d'un truc tout bête qui est qu'on fait partie de cet environnement qui s'appelle la nature et qu'on est nature. Mmh. Et donc, si on dansait plus et si on dansait plus ensemble, je pense qu'on prendrait plus conscience de ça. On aurait une communication différente avec les autres. Et encore une fois, on s'amuserait tellement.
Donc, dans les prochains programmes Ticket, il y aura...
Mais
il y a déjà
du corps. Il y a... C'est ouais. Pour ça aussi que je dis que je ramène... Depuis toujours, chez Ticket, on parle d'une pédagogie tête-cœur-corps.
Ouais.
Et donc, on a... Et ça prend de plus en plus de place. Et je suis en partie, évidemment, responsable de ça. Donc, c'est déjà présent. Et on est l'un des rares, d'ailleurs, à faire ça. Mais j'aimerais que ça prenne encore plus de place. Donc on y vient petit à petit.
Wow. Petit clin d'œil à la claque. Et c'est quoi toi ta plus grosse claque?
Je crois que ma plus grosse claque, je vais dire un truc très personnel, mais c'est peut-être parce que j'ai entendu ma grande sœur tout à l'heure, mais c'est la première fois que j'ai tenu mon petit neveu dans les bras. C'était l'aîné de tous les, donc mon premier neveu. Et j'ai eu un truc comme un éclair qui tombe sur moi. Qui m'a transpercée et où déjà j'ai eu un peu ce truc de me dire de responsabilité. Bon, déjà que je me sens un peu peut-être trop responsable du fait que le monde doit aller mieux, etc. Mais un peu ce truc de maintenant j'ai quelqu'un
pour qui
je dois le faire de tellement concret. En fait, c'est plus seulement pour moi, pour je sais pas, des inconnus. Il y a un truc de comme l'entonnoir qui se rétrécit et qui arrive sur cette petite personne. Voilà. Et c'était un moment très, très puissant de ma vie. Et ouais, c'est une grosse claque que j'adore revivre, que je vais revivre bientôt, puisqu'il y en a deux autres qui arrivent. Donc, ouais, c'est une très belle claque.
Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace?
Quelle est la question qu'on me pose tout le temps et qui m'agace? Je dirais que c'est peut-être... C'est une question et une attitude. C'est quand les gens me regardent vraiment d'un air hyper douteux et ils me disent « Mais vous faites quoi, en fait, vraiment, chez Ticket ?» Un peu ce truc de « J'ai un peu compris, mais j'ai quand même pas trop compris. » Non, en vrai, je dis que ça m'énerve, mais c'est juste... C'est vrai que c'est compliqué ce qu'on fait, et même pour nous de le dire, tu m'as demandé de le faire en une phrase, ouais. C'est complexe. Mais c'est plus cette pas seulement la question, mais la posture.
Le corps, encore une fois.
Le corps et le visage où tu sens vraiment que il te pose la question, mais tu sais même pas s'il a vraiment envie d'entendre la réponse parce qu'il trouve ça trop compliqué déjà. Voilà, c'est un peu ça.
Et celle qu'on ne pose jamais et que c'est tant mieux.
Celle qu'on ne pose jamais et c'est tant mieux, c'est « Et toi, quand est-ce que tu auras un enfant ?» Et je me sens chanceuse en tant que femme, j'ai 33 ans, que de n'avoir aucune pression là-dessus. D'aucune personne, et notamment de mes proches. Mmh. Donc, je suis contente qu'ils me laissent le temps.
Et la question qu'on ne pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi?
Je pense que tu me l'as un peu posée. Tu m'en as posé beaucoup, d'ailleurs, de ces questions, parce qu'on ne me pose pas souvent des questions sur ma famille. Et si on ne connaît pas ma famille, honnêtement, on ne sait pas grand-chose de moi. C'est ça et encore une fois mon rapport au corps, mon rapport au corps, à la danse, à la créativité, qui sont des choses qu'on voit pas trop dans la façade entrepreneuriale et qui parfois déroutent un petit peu d'ailleurs, mais ouais, vraiment, ça évidemment ça vient assez peu dans des conversations mondaines, hein, comme on dit. Et ça, pareil, si on ne me découvre pas à travers ce prisme-là, peut-être si on ne danse pas avec moi, peut-être qu'on ne me connaît pas vraiment, finalement. Ah.
Alors, avant la dernière danse, qui, toi, tu aurais choisi comme sista, si tu avais dû en choisir une, c'est-à-dire une femme entrepreneur que toi, tu aimerais mettre en avant et qu'on t'aggrade dans cette émission, du coup.
Mm-hmm. C'est marrant parce que là, j'ai une personne qui me vient en tête, donc je vais dire qui c'est, qui n'est pas du tout une entrepreneuse dans le sens Silicon Sentier, tech, qui a monté un truc énorme de start-up, de je sais pas quoi. Mais j'ai sa petite bouille qui m'est venue. C'est Margot Bounin, qui est une amie de longue date et qui a monté une ferme de permaculture et de transmission aux enfants de toutes ces pratiques-là. Donc, elle fait une quantité de choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant à Belvès, dans le sud de la France. Et pour moi, c'est aussi ça que ça doit être
l'entrepreneuriat.
C'est pas seulement justement le Silicon Sentier, c'est pas seulement des levées de fonds et des, mais voilà, c'est des gens qui sur le terrain font des choses incroyables, sont les mains dans la terre et les mains avec les enfants. Enfin, elle fait les deux choses les plus importantes qu'il y a au monde, c'est-à-dire cultiver la terre et transmettre à des enfants. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus important. Mmh. Mais voilà, ces entrepreneurs-là, ces entrepreneuses-là, on en parle beaucoup moins que les autres, parce que justement, ils sont peut-être trop occupés à faire et non pas à dire. Donc voilà, Margot, si tu m'entends, tu le sais, tu es une personne formidable, tu fais quelque chose d'incroyable et ça serait bien qu'on t'entende plus, qu'on te voit plus. Voilà.
Le message est lancé.
J'espère.
Merci Adèle pour cet échange et je pense que le hashtag sera crapaud.
J'espère bien. Je ne sais pas si ça ramènera beaucoup d'auditeurs, mais écoute...
Ça peut susciter de la curiosité. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner les fameuses 5 étoiles qui permettent de gagner la guerre des algorithmes. Et on vous retrouve très prochainement pour une prochaine Sista. Salut Adèle.
Merci Solène.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.